J'ai intitulé ce message « Prie ton Père qui est dans le lieu secret ». Et 2 semaines en arrière, on a eu la présence de Matt Marvan et il nous a parlé d'un certain nombre de choses. Il nous a dit qu'il fallait prendre un certain nombre d'habitudes et que c'était au travers de ces habitudes qu'on arrivait à un moment dans notre vie à vivre des exploits. Et ces habitudes, ça peut être justement dans la prière. Et ce matin, on va parler du fait de passer du temps en tête à tête avec Dieu. Et je voudrais tout de suite être clair avec vous, je ne veux surtout pas me mettre comme un modèle ou quoi que ce soit, parce que c'est vraiment un domaine dans ma vie dans lequel je me sens particulièrement repris. Un domaine dans ma vie dans lequel je lutte beaucoup. Quand on parle de relation personnelle avec Dieu, on aime se dire que c'est différent d'une relation avec notre conjoint ou avec nos amis. Alors oui, c'est vrai, notre conjoint, ce n'est pas Dieu. Et en ce qui concerne ma femme, ça, j'en suis sûr. Mais la relation... ça reste avec Dieu, ça reste néanmoins une relation. Et oui, on peut l'assimiler à une relation amoureuse. Quelqu'un qui voudrait passer un maximum de temps avec sa fiancée. Je me souviens, quand on était fiancés justement avec Anne-Laure, c'était pas parce qu'il y avait 5 heures de train qui nous séparaient que ça nous empêchait de passer ne serait-ce que 24 heures ensemble. Et on aimait aussi passer du temps au téléphone, on se couchait avec le téléphone sur l'oreille, parce qu'on aimait passer du temps ensemble. On voulait apprendre à la connaître, apprendre à se faire connaître. Et si, par exemple, dans une rencontre familiale, il y avait un jeune homme, fiancé, qui ne décroche pas un mot à sa future femme. Alors quand on lui pose la question, il n'a aucun problème pour dire « Mais je suis parfaitement amoureux d'elle. » Est-ce qu'on trouverait ça normal ? Ou alors est-ce qu'à l'inverse, on questionnerait l'amour qu'il a pour sa femme ? Et on peut imaginer aussi que le beau-père, il pourrait être triste de voir que ce jeune homme qui dit aimer sa fille, il la traite comme ça. Et Dieu souhaite que nous ayons cette relation avec lui, cette relation d'amour. Et Matthieu 22, verset 37, nous rapporte le plus grand commandement que Jésus laisse à ses disciples. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et on peut avoir dans son agenda tout un tas d'activités qui sont liées de près ou de loin à Dieu. Pour certains, ça pourrait être la chorale, pour d'autres, ça pourrait être une réunion de prière, le groupe de jeunes, une sortie d'évangélisation. Mais en aucun cas, ces activités doivent remplacer ce temps personnel avec Dieu. Et on pourrait se dire aussi, oui, moi je vais au culte chaque dimanche. Mais est-ce que ça suffit de manger un repas une fois par semaine ? Est-ce qu'on serait en bonne santé si on prenait un seul repas dans la semaine ? Et dans une semaine, on a 68 heures, mais sur ces 168 heures, combien est-ce qu'on en passe avec Dieu ? Et ce qui est génial, justement, quand on passe du temps avec Dieu, c'est que on peut être 100% nous-mêmes. On peut laisser tomber les masques. Parce que si on est honnête avec nous-mêmes, on a tous un masque, selon les contextes dans lesquels on vit. Moi, j'ai mon masque de Mathieu au travail. Mon masque, Mathieu à l'église. Mathieu avec tel groupe d'amis. Mathieu dans tel endroit. Mais quand on est avec Dieu, dans sa présence, on peut laisser tomber les masques. C'est le seul moment où on n'a pas besoin de mentir. Parce que moi, je peux vous mentir là tout de suite. Je peux prétendre que je suis humble, je peux prétendre que je suis spirituel, je peux prétendre que je suis serviable. Je connais les bons mots, je connais la bonne façon de le dire, je connais l'expression du visage qu'il faut avoir pour être crédible. Il y en a qui sont bons à ce genre de choses. Mais quand vient ce moment où on est seul dans la présence de Dieu, il n'y a plus personne à qui on peut mentir. Lui qui sait tout. Et même maintenant, alors que je suis en train de vous parler, il y a tout un tas de pensées qui me viennent dans l'esprit. Et vous ne connaissez pas ces pensées. Vous ne savez pas les intentions qu'il y a derrière. Et peut-être que je vous dis tout ça justement à l'instant pour passer pour quelqu'un de spirituel. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Il connaît non seulement les mots qu'il y a dans notre bouche, mais aussi l'expression qu'il y a derrière, l'intention qu'il y a derrière. Et puis il y a des moments où on est tellement stupide dans nos moments de prière avec Dieu qu'on joue une sorte de comédie pour essayer de se convaincre. On surspiritualise et quelque part on exagère l'amour qu'on a pour Dieu alors que lui, il va au travers de nous. Et c'est intéressant de voir les psalmistes justement de voir à quel point ils étaient 100% eux-mêmes aussi avec Dieu. Et des fois, même quand, quand ils sont en colère, ils n'ont aucun problème pour le dire. Et ils ont même des propos qui sont presque choquants. Je vous propose de prendre 2 Pierre, chapitre 1, versets 12 et 15. Voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà et que vous soyez fermement attachés à la vérité qui vous a été présentée. Mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels, tant que je serai encore de ce monde. Car je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Cependant, je prendrai grand soin que, même après mon départ, vous vous rappeliez toujours ces choses. Là, Pierre, il n'est pas en train de leur dire « Ouvrez bien grand vos oreilles, j'ai quelque chose de nouveau à vous dire, quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Mais je ne cesserai de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà. » Et si, comme moi, vous êtes tombé dans la marmite de l'Église avec un grand E depuis tout petit, vous avez entendu souvent les mêmes choses. Alors peut-être dites de façon un petit peu différente, mais c'est important qu'on entende ces mêmes choses, qu'on nous rappelle ces choses. Parce qu'au fur et à mesure de notre marche avec Dieu, de notre croissance avec Dieu, on va commencer à comprendre des versets de façon un petit peu différente, différentes facettes de la volonté de Dieu. Et puis tout simplement aussi, des fois, c'est important qu'on se rappelle ces choses parce qu'on est oublieux, on a tendance à oublier. Et là, Pierre encourage ses disciples en leur rappelant de rester accrochés à la parole, parce qu'il sait que son heure est proche. Et ce n'est pas dit dans la parole comment Pierre va mourir. Certains commentateurs s'accordent pour dire que Pierre a été crucifié. Mais ce n'est pas dit dans la Bible. La seule chose qu'on sait sur la mort de Pierre, ça se trouve dans Jean 21, versets 18 et 19. Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture. Tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras. Un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimeras pas aller. Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après cela, il dit. Après avoir dit cela, il ajouta, suis-moi. Tu vas faire des trucs que tu n'auras pas envie de faire. Tu iras là où tu ne veux pas aller. Tu vas mourir. Mais suis-moi. Parce que j'en vaux la peine. Là, on est d'accord qu'il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Il n'est pas en train de lui vendre quelque chose qui n'existe pas. Et quelque part, ça va à l'encontre de certaines idéologies chrétiennes qu'on entend souvent. Excusez-moi le terme, mais ce très vomitif évangile de la prospérité. Si tu donnes ta vie à Jésus, tout ira bien pour toi. Tu seras en bonne santé, tu seras riche. Mais là, ce n'est pas ce que Jésus dit à Pierre. Tu vas souffrir. Mais suis-moi. Et si nous, on savait qu'il ne nous restait que quelques mois, quelques semaines à vivre, comment est-ce qu'on utiliserait ces 168 heures qu'on a à disposition ? Est-ce qu'on ferait tous nos efforts possibles comme Pierre pour que ceux de notre entourage sachent comment suivre Dieu ? Pour leur montrer que ce qui compte vraiment, c'est la relation qu'ils peuvent avoir directement avec Dieu sans passer au travers de quelqu'un ? Parce que finalement, l'idée, c'est que peu importe qui parle, qui prêche, qui apporte l'étude, ce que moi, je veux entendre, c'est ce que Dieu a à me dire à travers sa parole. Et il y en a certains qui, parfois, se disent « Qui c'est qui prêche dimanche ?»« Ah oui, c'est Matt Marvan. Ok, je viens alors. » Ou alors « Attends, c'est lui qui prêche ?»« Ah, je sais pas. » Et ces personnes-là acceptent d'entendre parler de Dieu seulement si c'est au travers de certaines personnes bien particulières, à un moment de la semaine ou de la journée bien précis, et puis pour une durée bien déterminée. Au lieu d'aller directement à la source, ils vont manger ce qui a déjà été digéré par quelqu'un. Il n'y a pas ce besoin de passer du temps tête à tête avec Dieu. Et comme l'a réalisé Pierre dans ce passage qu'on vient de lire, on a tous un temps limité sur Terre. Je sais, ce n'est pas un scoop. Mais pour certains, on n'a pas besoin d'un prophète pour nous dire que c'est bientôt la fin. Un miroir nous le dira. Et est-ce qu'on est plus attaché à faire tous nos efforts possibles pour nous préparer à ce jour où Dieu va venir nous chercher, pour ce jour que Dieu a prévu? On arrive dans les temps de la fin. Et même si on le sait, personne ne veut aller en enfer, si on regarde bien, il n'y en a pas beaucoup qui veulent aller au ciel. Si là, tout de suite, le ciel s'ouvrait, Dieu nous adressait la parole, nous tendait la main, nous dit « C'est maintenant, viens dans ma présence ». Est-ce qu'on serait surexcité? Est-ce qu'on aurait envie d'y aller tout de suite? Ou alors, est-ce qu'on serait plutôt en train de lui dire, tu veux pas repasser dans un mois, un an, cinq ans? J'ai encore envie de vivre ça, et puis il faut que... Oh, j'ai tellement envie de voir mes filles grandir, j'ai envie de me marier, j'ai envie de faire ça, ça, ça. Est-ce qu'on a envie d'aller tout de suite dans la présence de Dieu? Mais la réalité, c'est que cette semaine, pour nous tous, ben, ça pourrait être la dernière. Et je vous propose de prendre Luc, chapitre 11, verset 1. Il va encore s'afficher. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Et souvent, on regarde le ministère de Jésus en tant qu'homme sur terre au travers de ces miracles qu'il faisait. Alors oui, c'est vrai, ces miracles attestaient que Jésus était bien le Fils de Dieu. Il confirmait tous les enseignements qu'il donnait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui venaient rencontrer Jésus pour l'entendre parler. Et ses disciples, qui étaient quotidiennement avec lui, et qui entendaient Jésus parler à des milliers de personnes, ses disciples passaient aussi du temps avec lui à table, pendant de longues heures de marche, pendant des moments de détente, que ce soit à la pêche, à la sieste. Et ce qui les a le plus bouleversés, ces disciples, le plus surpris, c'était cette vie de prière. Si on regarde attentivement le texte, il n'est pas dit, les disciples n'ont pas dit à Jésus, apprends-nous à marcher sur l'eau, apprends-nous à prêcher, apprends-nous à chasser des démons, apprends-nous à ressusciter des morts comme toi tu le fais, mais apprends-nous à prier. Et on peut lire ces versets un petit peu trop rapidement, sans vraiment saisir le sens profond. Je prends un exemple. Si demain, vous souhaitez faire du tir à l'arc, ne me demandez pas pourquoi, c'est un exemple. On est d'accord que vous ne viendrez pas me poser la question, me demander comment faire pour faire du tir à l'arc. Vous ne viendrez pas me demander des conseils. Pourquoi? Parce que j'y connais rien au tir à l'arc. Quand on demande des conseils à quelqu'un, on demande des conseils dans son domaine d'expertise, là où on admire la personne. Et moi, je suis convaincu que la démonstration la plus puissante de la divinité de Jésus en tant qu'homme sur terre, ce n'était pas quand il marchait sur l'eau, ou ni quand il chassait des démons, mais c'était quand il priait. Et laissez-moi vous poser une question. Et cette question, je me la pose souvent et elle me dérange un peu. Mais quand on prie, les gens autour, les frères et sœurs, est-ce qu'ils entendent un homme, une femme, un enfant qui passe vraiment du temps dans la présence de Dieu? Quelqu'un qui connaît intimement Dieu? Quelqu'un qui est familier avec la volonté de Dieu? Ou bien, est-ce qu'ils entendent un religieux culturel? De l'intellect? Des mots qu'on a l'habitude de dire dans ces circonstances parce que ça va bien? Parce qu'on a été éduqué pour? Je suis encore jeune, mais dans ma vie, j'ai eu le privilège de rencontrer un certain nombre d'hommes et de femmes qui étaient puissamment utilisés par Dieu. Il n'y avait pas forcément grand-chose en commun entre ces personnes, si ce n'est que quand ils pliaient le genou devant Dieu, quand ils priaient, on pouvait voir Jésus à côté. On pouvait voir cette intimité qu'ils avaient ensemble. Il y avait quelque chose qui se passait. Et on peut lire dans Luc, chapitre 5, verset 16, que Jésus se retirait dans les lieux secrets et priait. Et vous savez, quand on a une passion, quand il y a quelque chose qu'on aime vraiment faire, mais qu'à côté de ça, on a un certain nombre de tâches ingrates ou de choses moins sympas à faire, on a plus tendance à les bâcler, ou à les faire vite pour aller à ces choses qu'on aime, pour s'éclipser vers ses passions. Un homme pourrait, par exemple, s'éclipser de ses tâches du jardin pour aller regarder un match de foot. Ou un homme pourrait commencer à aller plus tôt au travail pour en sortir plus tôt et aller à la salle de sport, faire de l'escalade. Une femme pourrait s'éclipser pour aller faire du shopping. Même si je caricature, l'idée c'est qu'on a envie de s'éclipser pour aller à ces choses qu'on aime. Et j'ai entendu l'histoire d'un évangéliste qui était invité à une conférence et il était reçu par une délégation de pasteurs qui devait le récupérer à l'aéroport parce qu'il avait pas mal de temps de trajet en avion. Et sachant que cet évangéliste aimait le golf, ils se sont dit « ça va être sympa pour se reposer, qu'on puisse lui proposer de faire un parcours ». Et donc, il le récupère, et puis alors qu'il se dirige pour aller commencer à jouer, L'évangéliste prend la parole et dit « Ah, oh, vous savez, le Seigneur est bon. » L'autre jour, justement, encore, et pouf, un pasteur lui coupe la parole et lui dit « Hé, on est ici pour se reposer, parlons pas, boulot. » Mais c'est triste de voir que passer du temps avec Dieu soit assimilé à une tâche, à un devoir qui nous pèse. Et vous savez quand est-ce qu'on marche vraiment sur les pas de Dieu ? C'est quand on s'éclipse pour aller vers lui. Quand vous vous dites qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de tâches ingrates qui m'attendent, que j'ai qu'une envie, ne serait-ce que pour un moment, c'est de m'éclipser pour passer du temps avec Dieu, pour me reposer avec lui. Martin Luther avait l'habitude de dire « Aujourd'hui, j'ai tellement de choses à faire que j'ai besoin de passer au moins 3 heures dans la prière avant de commencer ma journée. » C'est quand la prière devient une tâche qu'on ne ressent plus à Christ. Et le monde, et même l'Église, avec un grand E, est tellement rempli de bruit. Veillons à prendre ce temps à l'écart, loin de toute distraction, loin d'Internet, de Facebook, Instagram, téléphone, livres, même les livres chrétiens. Je ne dis pas que les livres chrétiens, c'est mal, mais je dis que Jésus, ce n'est pas juste un bon sujet à étudier, mais c'est avant tout une personne à aimer. Jésus, lui, s'éclipsait pour être avec le Père. Et dans Matthieu 14, verset 23, il est dit, « Après avoir envoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là, seul. » Et des fois, on entend la question, mais pourquoi Jésus voulait passer autant de temps dans la prière avec Dieu, puisqu'il était le Fils incarné de Dieu? Mais est-ce qu'il ne voulait pas juste passer du temps tête à tête avec Dieu, simplement parce qu'il l'aimait? Simplement parce qu'il chérissait cette relation avec Dieu? Il est dit dans Luc 6, versets 12 et 13, en ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Et quand le jour parut, il appela ses disciples, en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. En voilà une étape importante du christianisme, le choix des apôtres. Et est-ce que nous, dans les étapes importantes de notre vie, est-ce que dans les carrefours de notre vie, dans les choix difficiles à prendre, est-ce qu'on passe la nuit en prière? Ou au moins quelques heures en prière? Et puis on continue avec Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Qui pourrait oublier Gethsémané? Qui pourrait oublier le combat qui a été mené sur ce lieu? Après avoir prié, quand Jésus s'est relevé, la bataille était finie. La guerre a été menée là-bas. Et combien de choses devons-nous combattre dans nos vies? Combien de philistins devons-nous supporter et qui restent dans le pays et sont pour nous comme des épines? Pourquoi? Parce qu'on ne continue pas à prier jusqu'à ce que la victoire nous soit donnée. Et ce passage, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne, ça ne fonctionne pas qu'avec les démons. Il y a tellement de montagnes dans nos vies, tellement d'obstacles, tellement de choses qui vont nous faire dérailler. Et ces choses-là ne partiront pas. Pourquoi? Parce que ces choses-là ne partent pas seulement par des conseils, même des conseils de personnes bien intentionnées, mais elles partent en tombant face contre terre, dans la prière avec Dieu. Luc 18, verset 1. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier, sans se décourager. Ça, c'était un des enseignements majeurs de Jésus. Si on devait résumer tout ce qu'il a dit sur la prière, ça se résumerait en « nous devons prier en tout temps ». Et toutes les fois, on se dit « ouais, mais moi, je n'ai pas vraiment un moment spécifique où je vais dans le lieu secret pour chercher la face de Dieu. C'est plutôt tout au long de la journée. » J'ai envie de nous dire « réapprenons à prendre ce temps à part avec Dieu, loin de toute distraction, et cherchons sa face. Persévérons dans la prière. » Parce que l'initiative de la prière, finalement, c'est jamais vraiment un souci. On a initié tellement de demandes devant le trône de Dieu. Mais pour combien de ces demandes on a continué à prier, on a persévéré? Combien il y a de sujets de prière qu'on a sur le cœur, sur l'esprit, ou même écrits sur un bout de papier, qui auraient pu être écrits sur ce bout de papier depuis plus de 15 ans, et pour lesquels on continue à s'accrocher? C'est vrai que c'est facile de lancer un sujet de prière, mais le vrai challenge, c'est de persévérer dans la prière. Ce que j'aimerais qu'on puisse retenir ce matin, c'est vraiment ce modèle de prière qu'on a en Jésus-Christ. C'est de se rappeler que lui aimait passer du temps avec Dieu. Il s'éclipsait pour passer du temps avec Dieu. Et plus on passe de temps dans la présence de Dieu, et plus c'est notre vie de prière complète qui va se transformer. Au début, on peut avoir des sujets de prière assez égocentriques. Moi, je, moi, je, moi, je. Aide-moi à ceci, permets cela. Ou même assez généraliste, presque immature. Aide les chrétiens persécutés dans le monde. Mais au fur et à mesure de notre marche avec Dieu, au fur et à mesure de notre croissance avec Dieu, notre vie de prière va se transformer et même nos sujets de prière vont se transformer. Et ce sera plus tant à propos de nous, mais ce sera à propos de Dieu, de sa gloire, de son royaume, à propos de la mission qu'il nous a confiée à chacun. Et on va apprendre à prier plus longtemps, plus souvent, plus efficacement sur des sujets plus spécifiques. Alors apprenons à nous éclipser pour passer du temps avec Dieu. Apprenons à passer des moments plus longs, tête à tête avec lui, pour qu'il y ait des transformations non seulement dans notre cœur, mais aussi sur notre visage. Parce que de la même manière que Moïse, quand il est monté sur la montagne et qu'il a passé 40 jours complètement immergé de la présence de Dieu, quand il est redescendu, il y avait des transformations non seulement dans son cœur, mais aussi sur son visage qui brillait. Alors nous aussi laissons briller nos visages par le renouvellement de la prière. On prie. Seigneur notre Dieu, on veut te supplier de nous réapprendre à passer du temps avec toi. Tu vois toutes ces distractions qui sont mises devant nos yeux. Tu vois tout ce temps qu'on passe dans toutes ces choses et on ne se prépare pas à te rencontrer, toi. Pourtant, tu reviens bientôt, tu nous l'as dit. Seigneur, aide-nous à réaliser qu'on a désespérément besoin de passer beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec toi dans la prière. Aide-nous à retrouver cette relation d'intimité avec toi. Et Père éternel, on veut te rendre grâce pour ce modèle de prière que tu as mis devant nous, pour Jésus-Christ. Et c'est par ce nom de Jésus-Christ qu'on veut te prier.
Je partage avec vous les annonces, le programme de la semaine déjà, je vous laisse le découvrir sur l'écran. Puis vous voyez tout de suite, ça tombe bien parce que mardi il y a la réunion de prière. Alors c'est vrai, c'est important de prier dans notre cœur avec Dieu, dans notre intimité. Et puis c'est important aussi que cette prière débouche aussi sur une prière communautaire. Et c'est ce qu'on vous propose pour mardi soir. Samedi, club d'enfants, ça revient vite, hein. Mais en février, il y aura des vacances, alors c'était bien de le faire aussi avant les vacances pour que chacun soit disponible. Donc, pensez à inviter des enfants, peut-être leurs parents aussi, qui vont les accompagner. Et il y a des flyers au fond de la salle. Prenez-les, faites-en bon usage et que vraiment ce temps soit un temps utile aussi pour répandre la parole de Dieu. Dimanche prochain, il n'y aura pas de culte ici. Donc le culte aura lieu à Palexpo. On vous invite à vous joindre à ce culte qui est organisé par plusieurs églises genevoises. J'ai mis sur le panneau au fond de la salle le flyer de ce dimanche. Donc le culte a lieu à 10h30. Disons plutôt la première partie du culte a lieu à 10h30 le matin. Comme il y aura beaucoup de monde, moi je vous invite à prévoir d'arriver un petit peu en avance quand même. Déjà, ça permet d'avoir le temps d'arriver, de se mettre en place. Et puis, ça permet aussi d'avoir des échanges avec les autres. Et c'est toujours précieux d'avoir ces échanges. Ensuite, prenez un pique-nique, parce que la journée ne sera pas finie après la première partie du culte. C'est que la première partie. le matin. Donc ensuite, pique-nique entre 12h30 et 15h. Et puis, pendant ce temps-là, il y aura aussi des concerts. Donc, peut-être que ce sera un pique-nique en pointillé, à voir, mais ce sera, je pense, super intéressant. Et puis, à 15h, la deuxième partie du culte. Donc, voilà, une belle journée, riche, avec plein de choses. Voilà, prévoyez de participer. Le samedi 24 février, donc, on vous en a parlé, conférence pour femmes à Avusy. Tu es précieuse et il y a des flyers d'invitation au fond de la salle aussi. Concernant le club d'été, la semaine est fixée. On a eu donc la réservation de la salle et ce sera donc la semaine du 9 au 15. C'est facile à se rappeler, c'est toujours la semaine dans laquelle il y a le 14 juillet. Alors réservez ces dates et puis vous pouvez déjà en parler autour de vous à des enfants qui seraient intéressés de participer. Je laisse la place à Rebecca maintenant, qui a deux, trois petites, enfin une principalement, une annonce à nous faire.
Je profite juste par rapport au club, déjà de dire merci Seigneur pour cette salle, ça a l'air tellement normal qu'on ait cette salle, mais non, je crois vraiment que c'est une grâce que Dieu nous fait. Et là, c'est noté qu'on aura une réunion avec les moniteurs vendredi à 20h30, donc ça sera chez nous, et on va faire... par équipe, les aides-moniteurs, on vous prendra aussi, mais on avait à cœur de prendre équipe après équipe. Alors, tous ceux qui aimeraient peut-être s'engager cette année aussi en tant que moniteur, vous êtes les bienvenus à la maison à 20h. Il y aura des gâteaux, chérie. Ensuite, une autre soirée. Alors, je suis désolée, les hommes, c'est nouveau pour les femmes. Merci de garder les enfants. Donc, c'est rencontre de femme à femme avec la mission Portes Ouvertes. On avait l'habitude d'aller sur la Suisse pour ces rencontres et cette année, on avait à cœur de la faire ici. Alors, ça concerne toutes les femmes et toutes les jeunes femmes aussi, les plus jeunes. Vraiment, je vous conseille de venir à cette rencontre. J'ai une centaine de flyers. Le but, c'est d'inviter toutes les femmes, les amis sur le Pagex, qu'on soit vraiment nombreuses, qu'on remplisse cette salle. Et c'est Hélène Fischer qui est responsable internationale du ministère de Femmes à Femmes, qui sera là avec nous. Et je vous lis juste le début. Dans de nombreux pays, la violence contre les femmes est largement pratiquée. Ces dernières sont une cible facile, puisque très vulnérable. Comment survivre après un abus, la perte de son mari ou l'enlèvement d'un enfant? Alors, ces questions, Hélène Fischer va y répondre. Donc, ça sera le vendredi 16 mars, à 20h ici. Merci de faire de la pub. Je mets les flyers au
fond. Et puis, puisqu'on est dans les dates, le mardi 20 mars, donc quelques jours après, aura lieu notre assemblée générale ordinaire de nos deux associations. Donc voilà, vous pouvez déjà réserver la date, le mardi 20 mars à 20h. Et puis, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est l'occasion pour les personnes qui le souhaitent de devenir membres. Donc, les membres doivent être validés par une assemblée générale. Alors voilà, si quelqu'un tout d'un coup voulait venir membre, c'est le moment. N'hésitez pas à venir nous trouver. C'est important aussi de s'engager dans l'église locale. Continuons aussi de penser à ceux qui souffrent. On a fait allusion aussi pendant le culte. C'est important de prier pour eux. C'est vrai, on est une famille. Et c'est important de les remettre aussi et d'être aussi proche d'eux par la prière. Je vous invite à vous lever. Je vous lis encore deux versets dans Colossiens. Colossiens au chapitre 3. Que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.